Mode d'emploi, l'émission hebdomadaire d'AC Agir ensemble contre le chômage. Sur FPP, fréquence Paris pluriel, 106.3 MHz, à 20h30, tous les vendredis.
Tous les chômeurs ne tirent pas sur des policiers ou sur des gendarmes. Il faut les traiter comme des trafiquants et comme des voyous.
Bonsoir, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Ce soir, je suis avec Ludo. Bonjour Ludo.
Bonsoir.
Thierry, bonjour.
Bonsoir.
Et nous recevons donc Marion Bergeron qui vient d'écrire un ouvrage, donc un témoignage sur Pôle emploi, à couper au couteau, donc on en reparlera juste après ça.
Bonsoir.
Quand on veut expliquer l'inexplicable, c'est qu'on s'apprête à excuser l'inexcusable.
Bonjour Marion.
Bonjour.
alors moi j'ai reçu ton livre hier matin, donc je l'ai parcouru assez rapidement parce que j'ai pas beaucoup de temps devant moi. La première chose, c'est que j'aurais aimé que tu m'expliques un petit peu comment tu es venu à travailler à Pôle emploi, puisqu'a priori c'était pas ton truc.
Non,
t'es tombé un peu là-dedans par hasard aussi.
Tout à fait. Donc moi j'étais simplement graphiste au chômage, donc ça faisait un petit moment que je cherchais du travail. J'étais au bout du rouleau des indemnités ACEDIC tout simplement. J'ai entendu parler dans la presse d'un recrutement de 1840 CDD pour Pôle emploi. J'avais le niveau d'études requis, bac plus 2, je me suis dit pourquoi pas. J'ai envoyé mon CV un peu comme une lettre, une bouteille à la mer finalement. Et j'ai eu un entretien, ça a duré 10 minutes. Le lendemain on m'appelait, j'étais recrutée dans une agence.
D'accord. Et cette agence se trouvait à quel endroit ?
En banlieue parisienne.
D'accord. Alors justement, alors comment s'est passé les premiers jours de ton arrivée à Pôle emploi ?
Alors honnêtement, la première journée a été absolument catastrophique. J'arrive en pleine bagarre à l'accueil avec une dame qui souhaite faire des photocopies, avec qui ça se passe très mal. Donc je tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Mes collègues sont pas prévenus, elles savent pas qu'il y a une nouvelle recrue. Donc elles improvisent un petit peu, je passe dans la partie privée de l'agence, elles me reçoivent. Et là je me fais littéralement engueuler par une collègue qui est manifestement très blessée de me voir débarquer, parce que je représente un petit peu Pôle emploi. Et puis j'ai pas de formation, je suis en CDD, je sers pas à grand chose, je suis trop jeune. Donc elle m'engueule. Ça dure longtemps et c'est très difficile. Je crois que c'est une de mes pires premières journées de travail.
Sur quelle, en fait, sur quelle base on t'a recruté ? C'est-à-dire, est-ce que dans l'entretien, il y avait une affinité au départ ? T'avais déjà eu affaire aux chômeurs ou...
Pas du tout. Alors moi, j'avais aucune expérience de l'insertion professionnelle ou même de l'administration sociale, par exemple la Sécu ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai simplement fait part de mes qualités, on va dire, humaines, expliqué que j'avais compris en quoi consistait le poste. On m'a dit que c'était très bien, que j'allais être formée, que j'avais le profil, tout simplement.
Donc tu dirais que par rapport à d'autres, à des collègues, par exemple, c'est plus ta personnalité qui a fait, plus que ton, ou ton âge aussi peut-être, qui a fait la différence ?
Par rapport à mes collègues, rien n'a fait la différence. Mes collègues ont été recrutés par concours, elles y ont mis de la volonté.
Enfin, par rapport à d'autres candidats.
D'autres candidats, oui. Je crois que Pôle emploi avait tellement de mal à recruter qu'ils auraient à peu près pris n'importe qui.
D'accord.
Malgré le chômage.
Oui, oui, oui. Oui, oui, je crois qu'ils ont vraiment du mal à trouver des gens pour faire ce métier.
Donc, tu as touché un peu à tous les postes, tu as tourné. Comment fonctionne un peu Pôle emploi de l'intérieur ? Parce qu'apparemment, de ce que j'ai pu lire de ton livre, c'est que vous êtes tous, une journée ou deux par semaine, à changer de poste.
Oui, tout à fait. Donc, en fait, chez Pôle emploi, tout le monde est conseillé, à part l'équipe dirigeante des agences. Et donc, un conseiller, en fait, va tenir tous les postes. Ça se découpe par demi-journée, on tourne, on fait la plateforme téléphonique, l'accueil, les entretiens, les inscriptions. Les ateliers, voilà. Donc un conseiller, la personne que vous croisez n'importe où dans Pôle emploi, en fait, elle fait tous les postes. Elle est conseillère et elle prend tout en charge.
Alors, ça veut dire que le conseiller, il n'a pas de poste précis avec un bureau à son nom, avec son nom marqué sur le bureau.
Tout à fait, voilà. C'est pour ça que votre conseiller change à chaque fois d'endroit dans l'agence. Vous ne le retrouvez jamais au même bureau. Effectivement, les conseillers sont volants. Ils n'ont pas, de bureau.
Alors moi, il y a une chose qui m'a... On parlera du livre plus précisément par la suite, mais une chose qui m'a un peu surprise, c'est le nombre de sigles et de... Qui, alors, est-ce que c'est pour noyer le poisson ou alors est-ce que c'est simplement une sorte de truc intellectuel
je sais pas. La novlangue.
Voilà.
La novlangue,
oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Bon, c'est très connu dans les administrations, mais... Là, c'est trop. Parce que non seulement les usagers ne peuvent pas s'y repérer, mais en plus, même les conseillers n'y arrivent pas. Enfin, puis, par exemple, quand vous appelez un atelier une infocall, c'est pas plus court et ça veut rien dire d'un coup. Donc, c'est comme chez le médecin, en fait. Il y a une espèce de barrière du langage qui met encore plus les gens à distance. Moi, je pense que quelque part, c'est voulu.
D'accord. Non, alors très bien. Alors, moi, j'ai un truc que je voudrais voir, c'est que tu nous as parlé avec cette relation avec ce collègue qui était un peu sévère au début, la première journée. Mais j'ai eu l'impression, en lisant ce livre, que tu avais aussi un certain nombre de. Pas de problème, toi personnellement, mais qu'il y avait un problème entre les gens qui travaillent et les chômeurs qui attendent pour leur dossier.
Oui.
Donc, il y a un rapport de force, une sorte de conflit perpétuel, permanent. À ton avis, c'est dû à quoi, ce genre de conflit?
Alors, effectivement, on travaille dans une ambiance exécrable. Et il y a énormément de tensions entre les demandeurs d'emploi et les conseillers. Maintenant, elle est entièrement due au système. C'est-à-dire, le système envoie aux gens des courriers qui sont d'une violence incroyable. Le système rebalance les gens entre la plateforme téléphonique, les accueils des agences, leur donne 50 fois une information différente pour la même question. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, les gens arrivent à l'accueil, ils n'en peuvent plus. Et forcément, ils sont violents. Enfin, c'est horrible parce que vous êtes en face et vous prenez cette violence qui est très difficile et c'est invivable de se faire agresser physiquement sur son lieu de travail. Mais en même temps, vous comprenez pourquoi les gens sont violents. Ça, c'est vraiment une ambiguïté que j'ai eu beaucoup de mal à vivre.
Est-ce qu'il arrive qu'il y ait des dossiers qui soient perdus, des pièces et des... Par exemple, bon, demain, moi, je suis au chômage, j'envoie mes justificatifs, tout ça, et puis je me pointe à l'entretien, l'entretien ou l'inscription, et puis là, certaines pièces ont disparu, ou le premier entretien que j'avais eu a été effacé. Est-ce que c'est des choses que vous avez...
Alors, oui, mais pour moi, c'est resté un grand mystère, les pièces des demandeurs d'emploi. Je ne sais toujours pas ce qu'ils en font. En fait, je vous explique. Moi, je suis en entretien. Vous me remettez une attestation. Alors, moi, j'étais pas au niveau ACEDIC. Hein, j'étais vraiment au niveau NPE. Donc, je sais pas, quelque chose pour une formation, un papier important. Moi, je vais le passer à ce qu'on appelle la base arrière, qui va le traiter et l'archiver.
C'est très militaire comme terme.
Oui, tout à fait.
La base arrière, l'armée de réserve.
Voilà, là. Donc, la base arrière va s'occuper de votre papier, l'archiver quelque part. Mais je n'ai aucune idée de la façon dont on peut retrouver ce papier. Pourtant, j'y ai travaillé pendant 6 mois. Donc, je pense que oui, il y a beaucoup de papiers qui se perdent.
Oui, et est-ce qu'on ne peut pas le retrouver par informatique
Alors, évidemment, je suppose qu'on peut le retrouver par informatique. Mais c'est une démarche que je n'ai jamais eu à faire. Et honnêtement, personne ne m'a jamais renseigné à ce sujet-là.
Oui, parce qu'il y a bien quelqu'un qui doit archiver.
Oui, alors, il y avait des archives papier. Maintenant, elles sont informatiques. Mmh. Mais je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas comment on retrouve un dossier.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si demain, j'y manque des papiers, peut-être, et j'ai la mauvaise idée d'aller demander à Pôle emploi.
C'est une mauvaise idée, effectivement.
Voilà, je n'ai pratiquement aucune chance d'avoir une restitution.
Non, honnêtement, non. Non, c'est pour ça, d'ailleurs. Enfin, moi, quand notamment, vous devez fournir aux ACEDIC les originaux de vos attestations ACEDIC. Moi, je conseillais à tous les demandeurs d'emploi d'en faire une copie avant de les donner à Pôle emploi, parce que c'est un panier percé, hein, clairement.
Alors, justement, ton livre s'appelle 383 jours dans la barbarie
183
ordinaire. 183, pardon, excuse-moi. Dans la barbarie ordinaire, chez Plomb, apparemment.
Tout à fait.
Donc, ça veut dire que pour toi, c'était vraiment la guerre d'aller travailler comme ça tous les jours?
Oui, mais moi, ça m'a rendu malade. Hein.
D'accord.
Alors, dépressif?
Des noms.
On veut savoir parler
des noms.
Non, mais effectivement, enfin, c'est d'une violence terrible. Non seulement vous avez la violence des personnes qui sont dans des situations de précarité difficilement supportables, mais en plus, vous faites un métier qui n'a pas de sens. Et vous vous rendez vite compte que vous n'êtes qu'un rouage du système et que, clairement, ce qu'on vous demande de faire va à l'encontre de votre morale et de ce que vous êtes capable de faire.
Et pourtant, est-ce que c'est pas une initiation au monde du travail aujourd'hui, et notamment au monde de l'administration, où finalement les administrations deviennent tellement énormes que les petites mains de l'administration, c'est le terme consacré, sont elles-mêmes prises, ne sont qu'un pion finalement.
Oui. Alors, je crois qu'être un pion devait me rendre malade. Honnêtement, faire des faux entretiens pour simplement faire gonfler les chiffres des personnes reçues par l'agence et rentrer dans les dossiers de demandeurs d'emploi que je n'ai jamais vus. Nous nous sommes rencontrés ce mois-ci et nous nous verrons le mois prochain. C'est quelque chose que je ne veux pas faire et c'est quelque chose que j'ai refusé de faire. Mais il faut vraiment de la force pour dire à votre supérieur hiérarchique non. Là, ce que tu me demandes, je le ferai pas. C'est pas en accord avec mes principes.
Est-ce que vous avez eu cette impression que quand quelqu'un vient vous demander un papier, une pause papier que vous avez eu en main, parce que je vais m'inscrire à un stage, et ce stage, je l'ai eu par la région, parce que la région m'a autorisé à faire ce stage. Ils me posent ce papier-là et on vous dit non, on l'a pas. Et est-ce qu'il y en a qui ont dit, eh ben, si vous ne me donnez pas tout de suite, je vous attaque au tribunal.
Est-ce qu'il arrive qu'il y ait des problèmes d'administration à administration? C'est-à-dire, par exemple, le conseil régional vous propose une formation à demandeur d'emploi, c'est un cas véridique, mm-hmm. et la NPE fait blocage au motif que la personne ne rentre pas tout à fait dans les critères, un motif qui peut être absurde,
oui.
Ou alors qu'on demande des papiers, des justificatifs à telle administration qui elle-même renvoie sur le demandeur d'emploi.
Tout à fait, oui. Non, mais il y a un vrai ping-pong. Les administrations se renvoient les usagers pour pas s'en occuper, en fait. Et puis, alors, le Conseil général veut le papier AF-147, sauf que nous, on l'utilise plus depuis 2 ans. Alors, c'est le 149, mais ils veulent pas le 149. Si vous tombez pas sur une bonne âme qui va vous ressortir des archives à un 147 pour régler le problème, parce qu'en fait, ça ne sert à rien. Tout ça ne sert absolument à rien. Oh. Vous en avez pour très longtemps.
D'accord. Donc,
oui. Mais voilà, la réponse est oui.
Même au niveau des formations, par exemple, ça peut être... littéralement un cauchemar pour.
Ah, mais les formations sont un cauchemar chez Pôle emploi. Enfin, c'est extrêmement compliqué d'obtenir une formation
façon,
quand il y a besoin de Pôle emploi quelque part.
Ouais.
De toute façon, il n'y a plus de formation longue, a priori. C'est plus,
ah non, c'est fini.
Ça
n'existe plus.
D'accord. Même au niveau de la région, c'est.
Alors, je ne sais pas.
Moi, en tout cas, ce que propose
chez Pôle emploi, pas chez la région.
Oui, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est le mec du P. J'ai ma formation, on me donnait pas. J'ai ma formation qui a été acceptée par la région. Vous ne voulez pas me donner ce papier-là. Après ma formation, j'ai un emploi. Si je n'ai pas cette formation, je n'ai pas d'emploi. Donc, je vous attaque au tribunal administratif.
Est-ce que vous avez des procès? Est-ce que la NPE a des procès, des fois, à votre connaissance?
Alors, à ma connaissance, non. Enfin, moi, dans mon agence, je n'ai jamais vu aucun procès se faire. Mais moi, je l'ai conseillé aux demandeurs d'emploi. Enfin, je leur ai donné les coordonnées du tribunal administratif et les diverses mesures de recours, parce qu'effectivement, il y a des situations abusives, mais c'est très compliqué. Enfin, on rentre dans quelque chose d'encore plus administratif.
Parce que si on était ici, on est une émission de chômeurs, mais si on poussait un peu la chose un peu plus loin, il pourrait s'envisager d'engager des actions collectives, finalement,
mais
des
allez-y,
chômeurs groupés.
Faites-le.
Mais on l'a déjà fait, mais ce serait vrai que c'est intéressant de le refaire.
Oui, sur les indemnités, sur les choses comme ça, mais c'est vrai qu'on manque d'informations sur ce qui est légal, ce qui est. Voilà, sur la. Peut-être pas les règles de fonctionnement administratif, mais les dysfonctionnements réels de Pôle emploi et donc les mesures, la possibilité de recourir. Parce que, si vous voulez, de point de vue des chômeurs, on a affaire à une grande administration et c'est toujours très compliqué d'aller l'affronter. Il faut que ce soit.
Oui, il faut que c'est très encadré et savoir ce qu'on fait
savoir
exactement.
Savoir ce qu'on fait exactement.
Honnêtement, les règles administratives qui régissent Pôle emploi sont plutôt très bien faites et elles sont plutôt très sévères. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que souvent, l'administration les suit pas du tout. Donc, par exemple, les radiations, on va radier des gens pour des entretiens téléphoniques. C'est complètement illégal. Enfin, on peut pas vous radier pour un entretien téléphonique. Ça n'existe pas. C'est une vue de l'esprit.
Bon, ça, c'est dit. Ça, c'est dit à cette antenne, si vous l'avez. Si les chômeurs au bout qui l'entendent.
Allez au tribunal administratif.
Non. À mon avis, il suffit de les menacer, de leur expliquer qu'on connaît ses droits et que voilà, mais faites toujours des papiers et gardez toujours les doubles des papiers.
D'accord. Parce que justement, je voudrais prendre mon exemple parce qu'il y a 2 mois, j'ai téléphoné au 3949, il y a 2 mois. Hein. J'ai pris rendez-vous donc la fin du mois, novembre.
Oui.
Et j'ai cru, il manquait des papiers, donc je les ai ramenés le lendemain. C'était pas la même personne qui m'a accueilli à l'emploi. Et j'ai cru qu'il les avait perdus. Donc je suis retourné les voir. Et apparemment, il y a 2 mois d'attente pour être indemnisé, a priori. Je sais que tu es à Pôle emploi, mais d'ailleurs, il y a 2 mois d'attente pour être indemnisé.
C'est ce qu'ils vous ont dit?
C'est ce qu'ils m'ont dit.
Bah, c'est qu'il y a 2 mois d'attente.
Ça veut dire que c'est quoi? C'est dû au fait, peut-être que de ton point de vue. Hein.
Alors, non,
c'est
mais...
de la désorganisation, c'est parce qu'il y a trop de chômeurs, il n'y a pas assez de monde pour étudier les dossiers, ou tout ça.
Alors,
à la fois, quoi.
Enfin, les liquidateurs acédiques. Les gens qui travaillent aux acédiques, c'est vraiment un métier de comptable. C'est un métier très difficile et il y a vraiment, ils ont une école, il y a une formation. Enfin, c'est des règles de comptabilité infernales pour vous calculer vos indemnités. Donc, effectivement, d'une part, ils sont vraiment pas assez nombreux et ils sont complètement surchargés de dossiers. Donc, ils sont clairement hors délai. Alors, ça dépend. C'était dans quel département votre?
Dans Paris.
Dans Paris. Ah, oui. Ah bah oui, c'est pas de bol. S'il y a 2 mois d'attente dans Paris, c'est l'enfer dans tous les autres départements. Donc,
d'accord. Je vous propose de confirmer.
Non, je veux dire délai d'attente confirmé.
Voilà. Oui, oui.
Voilà. Je vous propose d'écouter une petite chanson, ensuite on prend la parole. Merci. Merci.
conseils de mes amis.
C'était Billy the Kick, donc une très belle chanson, sortie par tout un groupe de nanas et de mecs, très sympa. Donc vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Des chômeurs et précaires. Et ce soir, j'ai la joie d'accueillir donc Marion Bergeron, qui a écrit donc 183 jours dans la barbarie ordinaire chez Plon. C'est un témoignage extrêmement dur contre Pôle emploi, on va dire ça comme ça. Donc c'est un peu un voyage initiatique à l'intérieur de cette administration. Avec donc des petites descriptions des personnages, des situations. Il y a des moments où j'ai pas toujours apprécié, mais dans la majorité, c'est énergique, c'est assez bien écrit, donc c'est pas mal. Voilà. Donc on reprend la conversation là-dessus. Donc moi, je voulais savoir, Marion, oui. Quelle était la façon dont tu, quelle est la procédure que tu as mis en place pour écrire cet ouvrage ?
Alors déjà, moi, ce que je voulais dire, c'est que je suis pas allée travailler chez Pôle emploi pour écrire un bouquin. C'est vraiment, mais dès les premiers jours, hein, dès mes 4 premiers jours de travail, je me suis rendu compte que la réalité à laquelle j'étais confrontée devait devenir publique. Enfin, qu'il fallait raconter tout ça, que c'était vraiment important. Donc, bêtement, j'ai pris des notes de mes journées. J'ai rempli un agenda avec chaque soir le compte-rendu de mes journées. Alors, au début, j'ai commencé à rédiger pendant mon contrat, donc le soir, le week-end. Très vite, j'ai plus eu la force de faire ça, parce que ce métier m'a vraiment abîmée. En 6 mois, j'ai vraiment été très dépressive, même au bout d'un moment. Donc voilà. Et à la fin de mon contrat, j'ai pris du temps pour finir mon texte, et je l'ai envoyé donc à un certain nombre d'éditeurs et donc Plon qui l'a publié.
D'accord. Et est-ce que Plon t'a fait des critiques sur l'écriture, sur la façon dont c'était tourné au départ?
Non, très peu. Quasiment rien n'a été modifié.
D'accord.
Et est-ce que les éditeurs voulaient naturellement d'un témoignage sur le... Oui. Il a témoigné sur le, oui. L'ANPE, Pôle emploi, est-ce qu'il était demandeur?
Oui, complètement. Enfin, moi, je l'ai proposé à 3 maisons d'édition qui le voulaient tous. Donc, c'était un vrai sujet d'actualité, prometteur pour les éditeurs, avec un beau potentiel. Donc c'est quelque chose qui intéresse les gens vraiment, et ils en sont conscients.
D'accord, oui, donc c'est plutôt une bonne nouvelle a priori, quoi.
Bah, non, c'est une mauvaise nouvelle. Ça veut dire que ça fonctionne tellement mal que les gens veulent savoir pourquoi. Si ça fonctionnait très bien, tout le monde s'en ficherait. Mais pour moi, c'était une bonne nouvelle que ce soit publié et que ça...
Disons que pendant des années, le chômage a été relativement anonyme. Enfin, non pas anonyme,
oui,
mais les conditions de travail à Pôle emploi étant, parce qu'il y a quand même eu des grèves récurrentes. C'est vrai qu'on a plutôt le sentiment, les chômeurs ont plutôt le sentiment que le grand public a tendance à tourner le regard ou à tourner la tête pour ne pas voir ce qui le dérange. Donc que finalement il y a une demande éditoriale sur la question pour sensibiliser.
Parce que les choses, à mon avis, c'est parce que les choses se sont encore plus empirées et que la situation est telle qu'aujourd'hui on ne peut plus garder le silence. Enfin, aujourd'hui il y a des suicides chez Pôle emploi, donc. Voilà, enfin, on peut plus cacher ça.
Toi-même, tu as pris d'ailleurs, j'ai lu dans le bouquin, un arrêt maladie très rapidement, au bout d'une semaine, je crois.
Au bout d'une semaine, ça, complètement sonné au bord du ring, incapable de comprendre pourquoi d'ailleurs. Sur le moment, je ne me rends pas compte que c'est mon travail qui me rend malade.
Alors, c'est la tension nerveuse, ça, c'est l'agressivité des demandeurs d'emploi.
Oui, enfin, vous vivez dans un bocal d'agressivité, vraiment. Hein. En plus, moi, je suis une petite nouvelle, donc on me met à l'accueil tout le temps. Dès les premiers jours, je ne fais que ça, de l'accueil. Très vite, on me laisse seule. Au bout de 2-3 jours, on me laisse seule. Donc, je me retrouve confrontée à une situation à laquelle je n'étais pas du tout préparée et qui est beaucoup trop dure à vivre pour moi. Effectivement, au début, c'est violent, vraiment.
Oui, donc c'est pas très malin de mettre quelqu'un qui vient de débarquer à l'accueil. Non, mais là, vos collègues ont une responsabilité. Donc, même s'ils fuient l'accueil, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce qu'ils sont une complète incapacité de répondre aux demandeurs d'emploi ?
Non, alors, en fait, l'accueil, c'est le poste le plus difficile. Donc, dès qu'on a un peu d'ancienneté, on le fuit comme la peste. Voilà, c'est un privilège d'ancien que de ne pas aller à l'accueil. Maintenant, c'est complètement ridicule parce que c'est le poste qui nécessite le plus de bouteilles, où justement les anciens devraient être en priorité.
Alors moi, je te posais la question par rapport au fait que savoir s'ils avaient corrigé tes épreuves.
Oui.
Je pose la question parce qu'il y a certaines choses qui m'ont choqué quand même dans ton bouquin. On peut critiquer positivement,
vas-y.
On va dire. Je ne suis pas écrivain, donc je ne peux pas non plus positionner comme ça. Mais moi, j'ai des choses comme, par exemple, tu parles de l'octeux sans adresse mail, une certaine page, en parlant des chômeurs.
Tout à fait.
Alors, je ne sais pas du tout si c'est ta façon de penser, si tu pensais qu'ils étaient comme ça à toi en tant que personne, ou si tu l'as entendu dire par quelqu'un d'autre.
Non,
ou si,
alors non, c'est un mot de moi. C'est pas. Il est très dur et c'est pas pour rien, c'est pas gratuit.
Alors, je t'écoute.
Ouais, parce que justement, l'idée de ce livre, c'était vraiment de rendre l'état d'esprit dans lequel peut se retrouver un conseiller. Et c'est bien gentil, 6 mois après, de dire mais non, les demandeurs d'emploi étaient tous sympathiques, c'est des gens qui vivent des choses difficiles, parce que c'est pas vrai. En fait, sur le moment, vous êtes tellement noyé dans la violence et dans l'agressivité. Moi, je suis pas une sainte, donc je les déteste. Au bout d'un moment, clairement, je les déteste. Mais c'est pas de leur faute. Enfin, vous comprenez, c'est très difficile. Et en fait, vous avez tellement pas la possibilité de respirer. Vous êtes tellement noyé sous la tâche, noyé à l'accueil. On vous met à l'accueil tous les jours et vous en bouffez tous les jours. Clairement, c'est ça. Que vous avez plus la possibilité de prendre du recul et vous finissez par détester tout le monde. Moi, je finis par prendre le métro et avoir peur dans le métro parce que je reconnais vaguement une silhouette de quelqu'un que j'aurais pu croiser à l'accueil dans la journée.
Mais tu en parles d'ailleurs dans ton livre.
Oui, voilà. Et on me met dans une telle situation de pression et de stress et de violence que j'en perds mes valeurs morales. Et justement, c'est pour ça que je finis par employer le terme de locteux.
D'accord. Alors, il y a une deuxième chose, c'est qu'on en avait parlé hors antenne. Ça, c'est plutôt plus au début du livre.
Oui.
Tu parles d'une femme qui est dans une file, derrière un noir, qui était la photocopieuse.
Oui.
Et tu dis qu'elle était. Bon, en parlant d'elle, tu dis qu'elle était à moitié pute et à moitié SDF. Et là,
ça m'a un peu choqué. J'ai dit une jeune maghrébine à mi-chemin entre la prostituée et la SDF.
C'est ça.
Oui. Alors, c'est pas un trait de plume. Cette jeune femme est réellement une prostituée et elle colle dans l'accueil de mon agence. Donc ce n'est pas une insulte gratuite à l'encontre d'un demandeur d'emploi lambda. Cette jeune femme est à moitié SDF et à moitié prostituée.
D'accord. Mais le lecteur qui lit ça, si tu veux... Attends, excuse-moi Marion, mais
oui.
Le lecteur qui lit ça, bon, là tu me donnes l'explication,
oui.
Donc dont acte, mais le lecteur qui lit ça, il a l'impression, c'est l'impression que j'ai eue, que tous les chômeurs sont dans cette catégorie ou sont considérés comme ça par les... Tu vois, par les salariés, enfin, c'est une position personnelle. Hein,
oui, oui.
Tu vois. Donc,
non, mais cette phrase a choqué les gens, et tu n'es pas le premier à me faire cette remarque. Je pense honnêtement que je l'ai mal tournée. Alors, je n'enlève pas mes mots, je garde prostituée, je garde SDF, mais j'aurais dû expliquer qu'elle était réellement prostituée et qu'elle était réellement SDF. On a l'impression que c'est une insulte gratuite.
Oui,
ça l'est pas du tout. Et en fait, à aucun moment dans mon bouquin...
Ça pourrait passer pour un effet littéraire, enfin,
non, bah,
sauf précaution, dire bah, on sait que.
Oui.
Voilà,
mais en même temps, c'était maladroit de ma part, j'aurais dû l'expliquer, mais c'est aussi l'esprit du bouquin. On n'est pas dans la langue de bois et on n'est pas au pays des bisounours. Enfin, voilà, il y a des gens qui se prostituent, il y a des gens qui sont SDF et ces gens-là sont à l'accueil de Pôle emploi.
Bien sûr. Alors, je rectifie ce que je viens de dire, c'est-à-dire que ça, c'est ce genre de passage, il y en a peut-être 4-5 dans le bouquin,
oui.
Et ça prend 3 phrases à chaque fois. Mais c'est vrai que ça peut surprendre.
Hein, oui, tout à fait, mais je comprends.
Mais c'est vrai que le reste du bouquin est quand même assez relevé et c'est assez intéressant. Non, tu voulais dire quelque chose?
Oui. Alors, on voit aussi au niveau de Pôle emploi où des gens se font rayer de Pôle emploi parce que monsieur vient d'arriver dans le secteur. Pôle emploi, avec la fusion, a changé d'endroit où il a connu quand il passait.
Oui.
Quand il passait, alors que ça a changé d'endroit, ils l'ont mis dans un endroit caché.
Ils ne trouvent plus l'adresse.
Ils ne trouvent plus l'adresse et il est arrivé en retard à son rendez-vous et on le raye définitif.
Alors la fusion Pôle emploi et NPE, justement, parce qu'on n'en a pas parlé,
oui.
Est-ce que ça facilite les choses pour les demandeurs
d'emploi? Non, clairement non. C'est comme si on mettait votre poissonnier avec votre boulanger, en fait. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le même métier. Alors on se cache derrière une espèce de simplification, mais en fait ça ne fait qu'allonger les queues et rajouter un niveau d'interlocuteur de plus. Parce que finalement, quand vous allez à l'accueil de Pôle emploi, la personne, elle va d'abord essayer de décrypter si vous avez un problème à NPE ou à CEDIC. Parce que comme derrière, les équipes sont pas formées aux deux parties du métier, ce qui est clairement impossible. On va pas former votre boulanger à découper le poisson. Enfin, oui. C'est ridicule. Donc en fait, ça vous rajoute un niveau de complexité. Tout le monde s'embrouille. Personne ne comprend plus rien. Les queues s'allongent.
Enfin, le guichet unique, c'était quand même miraculeux. Enfin,
oui,
je veux dire, ouais,
oui.
Parce qu'avant, on devait aller à la NPE.
Formidable.
Mais géographiquement, moi, je suis pour. Mettons les acidiques et la NPE au même endroit. Et donnons-leur des secteurs géographiques identiques et mettons-les dans les mêmes locaux.
Non.
Mais ne mélangeons pas tout.
Tu expliques dans ton bouquin que vous êtes Pôle emploi et que justement les ACDIC sont en face, donc vous n'êtes pas très loin non plus.
Alors, oui, mais alors ça c'était provisoire. Maintenant ils sont ensemble en même temps.
D'accord.
Oui, voilà.
Et alors t'expliques que les agents ANPE et les agents ACDIC ne s'apprécient guère finalement. Alors, qu'ils n'apprécient guère les conditions dans lesquelles on veut les faire travailler ensemble.
Tout à fait. En fait, ils viennent vraiment de deux entreprises complètement différentes. Leurs mentalités sont différentes, leurs façons de travailler sont différentes, leur statut, leur salaire, rien n'est pareil. On les met ensemble et on fait tout pour qu'ils se mangent un peu le nez. Parce que finalement, s'ils se mettent d'accord et s'ils font les choses ensemble, ils auront sûrement plus d'acquis sociaux. Donc c'est plus simple de les diviser. Et puis vous avez des choses... Enfin, quand on méprise ses salariés, quand on les fait travailler dans des conditions qui sont pas bonnes, forcément il y a de la jalousie. Les ACDIC avaient leur bureau avant, alors ils avaient une peur bleue de devenir comme les ANPE et de pas avoir de bureau. Et en même temps, les ANPE avaient un côté un peu revanchard. Ah bah oui, vous allez apprendre à travailler sans bureau. Vous voyez l'ambiance dans laquelle on travaille quand on a ce genre de choses. Et tout est resté en suspens, rien n'a été réglé par la direction...
Sachant que, enfin, une partie des gens de l'ANPE étaient quand même des fonctionnaires et que oui. Ça voulait dire qu'à terme, les agents deviendraient passeraient sous contrat privé à l'image des ACDIC.
Mais en plus,
c'est ce qui était aujourd'hui à l'ANPE, je crois qu'on n'embauche plus en tant que fonctionnaire.
Ah non, c'est fini, il n'y aura plus d'embauche. Enfin, les seuls fonctionnaires qui sont aujourd'hui à l'ANPE, c'est les vieux fonctionnaires.
Oui.
Voilà, c'est fini, hein. Voilà. De toute manière, maintenant, on embauche des CDD de 6 mois.
Oui, alors justement. Vous, on vous a proposé un CDI. Alors d'abord, est-ce que c'est si fréquent ? Est-ce que c'est fréquent de proposer des CDI à des au bout de combien de CDD ?
Alors puis, j'ai l'impression que c'est deux CDD égale un CDI.
C'est ça.
Des CDD de 3 ans alors.
Six mois ou un an 6 mois ou 3
d'accord,
mois 6 mois quelque chose comme
plus
ça.
Court que, voilà. Oui. Que la moyenne normale des agents publics.
Sachant que ils y arrivent pas, hein, parce qu'en fait les gens font un CDD et s'en vont. Ils vont chez les opérateurs privés où ils sont bien mieux payés et bien mieux traités. Mais c'est voulu. En fait, Pôle emploi est en train de former les opérateurs privés.
Vous-même, vous avez eu des contacts avec les opérateurs privés ?
Non. Non, non, moi j'ai décidé d'abandonner ce secteur professionnel.
D'accord. Alors moi je voudrais revenir sur le livre. Ce livre, c'est une suite d'anecdotes quand même. C'est-à-dire qu'il y a donc un vécu. Ton vécu à l'intérieur de la boîte, donc c'est une sorte de journal interne qui pour changer la situation, donc
oui. Mettre
ça, tout le monde va se rendre compte de la situation et donc va pouvoir changer les choses éventuellement. Donc c'était un petit peu faire œuvre sociale que d'écrire ce livre, j'ai l'impression, hein, de ton côté.
L'idée c'est vraiment de témoigner, de raconter.
Ça c'est très bien fait, il n'y a pas de souci, ça, on voit très bien qu'il y a eu un vraiment souci dans ton travail, enfin pas à cause de toi, mais à cause de l'ensemble du système.
Oui.
Mais par contre, il y a donc des suites d'anecdotes avec Pauline, enfin je donne des noms comme ça, avec des collègues qui portent des prénoms de femmes, bien sûr, parce que c'est principalement des femmes.
Principalement des femmes, oui.
Et à un moment donné, tu décris ton patron en disant qu'il a un pull qui ne lui va pas, qu'il est chauve. Et apparemment, cet homme, quand je lis ton livre, j'ai l'impression que ce mec-là, finalement, est très sympa.
Oui.
Qu'il est fatigué plutôt qu'autre chose.
Oui.
Et tu l'écris méchamment. Et ça, je voulais savoir pourquoi.
Parce qu'en fait, au début, vous vous braquez. Moi, je me suis braquée au début quand je suis arrivée. Enfin, je me fais engueuler le premier jour. Je sens bien que je suis pas la bienvenue. Donc, effectivement, la première fois que je croise mon directeur, je lui trouve tous les défauts du monde. Et finalement, c'est un type adorable avec qui je m'entends très bien. Et c'est ce que j'ai voulu montrer dans le livre aussi. C'est que... On évolue en 6 mois, on comprend des choses et puis on change de point de vue aussi. Et je voulais pas dénaturer le ressenti du début de mon expérience par les 6 mois que j'avais vécu en fait. Donc c'était important pour moi de restituer aussi le mépris que j'avais pu avoir au départ pour les gens et qui finalement s'est transformé en sympathie.
D'accord. Alors je crois qu'on a quelqu'un au téléphone.
Allô ?
Bonsoir.
Oui, bonsoir, c'est Alain.
Salut
oui,
Alain.
Bonsoir Alain. Alors,
un témoignage qui est bouleversant, là, c'est vraiment intéressant à écouter.
Merci.
Je vais être rapide parce que je sais que vous n'avez pas beaucoup d'écoute. Petite...
Non, prends ton temps, il n'y a pas de souci.
C'est juste pour vous dire que je passe du coq à l'âne, vous allez me dire.
Oui.
Finalement, c'est un peu le lieu quand même, c'est l'emploi. J'étais au centre commercial de Carrefour Paris Nord à Aulnay, là, et il y a des caisses automatiques à tire-larigot et maintenant des caisses Vélib, les caisses libres. Et les gens, ils y vont. Qu'est-ce qu'ils peuvent être cons de faire ça, mais ils y vont. Ça leur coûte rien d'aller à la caissière. Une fois, dimanche, il y avait une caissière, il n'y avait personne. Ils allaient quand même à la caisse automatique. Comment les gens peuvent être aussi cons, quoi? Il ne faut pas y aller, il faut les boycotter, tout simplement. Ça leur coûte rien de ne pas y aller. Ils ne savent pas que c'est à leurs enfants qui n'ont pas d'emploi, après. Ouais. Voilà, c'était mon coup de gueule du jour, mais ça me ferait savoir ces choses-là, quoi.
Ah, mais c'est marrant parce qu'en micro, on parlait de l'automatisation donc des tâches à Pôle emploi ouais. qui avait eu pour résultat de rendre Pôle emploi tout à fait anonyme et inaccessible aux demandeurs d'emploi.
Tout à fait.
Alors... Mais, je voulais dire, les stations Esso, par exemple, elles ont automatisé toutes. Les stations Esso de France sont automatisées maintenant, vous avez remarqué. Et il y avait quatre gamins qui travaillaient à Bondy, je me rappelle à Bondy Nord, là. Ils ont mis ça automatique, toc, les quatre mots à la rue. Hein. Non, mais il y a une limite. Mais les gens, ils y vont quand même, donc qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Et quand il y avait des problèmes, une fois, il y avait des gens, ils prenaient l'essence à Esso, parce que c'est moins cher, et après, il allait en face à Total pour gonfler ses pneus, parce que c'est gratuit. Alors je lui ai dit, mec, vous faites une mais il y a 5 centimes de moins. Par contre, quand il y avait les grèves et tout ça, il avait fait 2 heures de queue à Total, parce qu'il y avait de l'essence. Ce qui prouve que quand on veut, on peut, quoi. Comment faire pour veiller les consciences? Leur faire comprendre qu'il faut boycotter ce genre de truc.
Ouais, on va essayer de leur dire en tout cas. Hein.
C'est bien ce que je disais des fois dans les grandes surfaces avec les caisses automatiques. C'est qu'un jour, le jour qu'il n'y aura plus que des cartes bancaires pour les caisses automatiques, que tu n'auras plus de monnayeurs, eh ben il y en a qui sont interdits de cartes bancaires, ben, pour même pas aller dans les grandes surfaces. On leur dira, vous allez dans les petits magasins, faire vos courses, vous allez dans les petits magasins.
Vous savez ce qui se passe à EDF en ce moment aussi, ce qu'ils ont fait? Parce que les compteurs qu'on va avoir bientôt, ils vont changer 37 millions de compteurs. Donc il y aura des compteurs mouchards, ils seront installés chez nous, et ils seront exactement la consommation qu'on consomme et tout ça. Donc il y aura 10 000 postes qui vont le supprimer, parce que ce compteur il va se relever tout seul, à distance. Donc ils ont commencé par étapes, ils ont externalisé la relève. C'est-à-dire que maintenant, ces petits releveurs qui viennent chez vous, c'est plus des agents EDF-GDF, ce sont des sociétés privées qui sont hyper exploitées, payées au SMIC, pas d'intéressement, pas de comité d'entreprise, pas de 13e mois, pas de conditions de sécurité, pas de cantine, les heures sup non payées, c'est vraiment de l'exploitation. Les petits mots m'ont bondi. Alors la plupart, ils restent 3-4 mois, ils disent, moi j'arrête, j'en ai marre, et ils retouchent le chômage. Est-ce que ça est une insertion, ça? Et pas d'avenir. Parce que si 3-4 ans, ils seront à la rue, donc ils n'ont pas d'avenir en plus. Puis relever les compteurs, c'est pas un métier vraiment, quoi. C'est n'importe qui peut le faire qu'un un jour ou deux de formation, quoi. Donc moi, j'ai commencé comme releveur, et j'ai pu évoluer après dans ma carrière, tout ça, bien de possibilités de carrière. Mais eux, ils ont rien, les pauvres. Hein. Ils étaient sous la pluie, sous la neige et tout, je les voyais, les pauvres mômes, c'est l'exploitation, quoi. C'est honteux.
Et encore, ça va durer, hein.
Les moyens, les actionnaires, ils auraient les moyens d'embaucher, hein. Largement. Et puis recycler ces pauvres gamins, soit entretien du réseau et tout ça, quoi.
Merci Alain pour ton témoignage.
Et entre guillemets, en parlant d'EDF, le contrat de la ville de Paris a été passé dans les mains de Bouygues. C'est plus EDF qui va gérer maintenant. Alors ça promet, hein.
Oui,
ça craint chaud. Ouais.
Merci de nous écouter, Alain. Merci.
Allez, puis bonne conversation, puis bravo pour votre émission. Dommage que c'est qu'une heure, hein.
Ouais, merci beaucoup.
Merci.
Ciao. Bon, on va revenir à nos moutons quand même, parce que là, on parle avec Marion de l'expérience à Pôle emploi.
Non, mais votre auditeur, il n'avait pas tort, parce que finalement, même chez Pôle emploi, on retrouve ça. Remplacer les gens par des machines, ça se fait chez Pôle emploi, quoi. Il y a des automates pour pointer, et puis on ferme les accueils, on renvoie les gens sur le téléphone. C'est plus rentable, tout simplement.
Alors, tu nous disais, oui, voilà, rentable, ta conviction, c'est que c'était plus rentable, alors que, vu des chômeurs, on a quand même l'impression que c'est pour mettre à distance la colère des chômeurs,
non,
pour limiter les...
À mon avis, Pôle emploi est complètement inconscient de la colère des chômeurs. C'est pas du tout un problème.
Pas ses agents, en tout cas.
Oui, non, mais enfin, c'est pas les agents qui font Pôle emploi. Ouais, ouais, ouais. Enfin, moi, j'ai l'impression que tout ça remonte pas. Il y a un gros problème de communication chez Pôle emploi et qu'en haut de l'organigramme, ils se rendent absolument pas compte des conditions dans lesquelles les agents travaillent.
Pourtant, tu décris une réunion avec, donc, d'ailleurs, en des termes là aussi crus, que je ne reprendrai pas, mais tu annonces effectivement une réunion où un grand chef doit enfin venir s'expliquer et où tous les agents sont sur le pied de guerre pour aller lui. C'est un truc classique,
oui,
hein,
oui,
le service,
oui,
public.
Finalement.
Et puis, bing, grand rattache, le grand chef ne vient pas,
ben
et
voilà.
On ne peut pas répondre à ses questions.
Et ben voilà, on en est là, il n'y a pas de communication.
Est-ce que c'est juste une question de communication ou est-ce qu'il n'y a pas quand même une sacrée mauvaise volonté de.
Ah non, non, mais il n'y a pas de communication parce qu'ils sont très mauvaise volonté. Enfin, c'est pas c'est la mauvaise communication. C'est enfin la communication dans une entreprise, c'est quelque chose qui se réfléchit, qui s'organise. Là, on l'a réfléchi pour la désorganiser.
Ouais, enfin, mais le patron de Pôle Emploi et de la CEDIC.
Oui, Christian Charpy
n'est pas le même.
Si, bah, si, maintenant, le patron de Pôle emploi, c'est Christian Charpy, qui est un ancien de la NP.
Oui, de Pôle emploi, mais de...
Mais si, depuis la fusion, c'est devenu le même, justement, puisque c'est le même organisme désormais. Mais ça, visiblement, ça n'arrange pas.
Mais il a pas la compétence de le père. Côté.
Ces gens ont compétence pour tout faire, Thierry. Ce serait bien que tu te mettes un peu dans la tête que tu passes d'HEC à la gestion de
cours. Alors, moi, je vais aller dans une boîte et dis ben moi, je sais tout faire, je peux m'embaucher dessus.
Voilà,
mais c'est le cas, tu sais tout faire, je sais bien.
Moi, j'avais une question. J'avais une question quand même sur les collègues, parce qu'on, enfin, moi j'ai beaucoup aimé le livre parce que finalement c'est une expérience qui est subjective, et donc c'est un journal, hein, et on le ressent beaucoup dans le bouquin et on sent la plongée progressive et ça se lit vraiment très bien.
Oui, c'est vrai.
Non mais je dis ça parce que c'est un livre sur le pôle emploi, alors on peut se dire ah bah c'est vraiment pas agréable, et puis quand on lit les critiques ah bah la pauvre, c'est le cauchemar et tout. Ouais. Et en fait le livre se lit est très très agréable à lire en fait, et pas du tout c'est pas le psychodrame. Hein, parce que alors peut-être que c'est la qualité littéraire qui rehausse la chose, et justement c'est la distance en tout cas c'est la distance, non mais j'ai dit ça en partant d'un mauvais a priori
oui,
au départ
oui,
donc c'est vraiment pour dire que voilà, et donc du coup qu'est-ce que je voulais dire, voilà, c'est qu'il y a la subjectivité. Et donc, on sent bien collègues. Que c'est votre parcours à vous.
Oui.
Vous êtes jeune, vous avez 25 ans, vous découvrez tout d'un coup. Et puis, bon, ben voilà. Et alors, vos collègues, parce que vos collègues, il y en a certaines qui peuvent avoir 50 boîtes, d'autres 10, il peut y avoir des fonctionnaires. Oui. On sait qu'il y a des dépressions à Pôle emploi. Est-ce que, comment
Alors, moi, globalement, mes collègues, je les ai sentis complètement déprimés, quoi. Et puis, alors, c'est bizarre. Pour moi, il y a vraiment deux familles de conseillers. Il y a ceux qui sont conscients, du travail. Ceux qui ont compris qu'on leur demandait de faire n'importe quoi et qui essayent de se battre un petit peu et de faire ce qu'ils peuvent avec les moyens du bord. Et puis il y a ceux qui n'ont rien compris, qui sont complètement les yeux bandés en fait, et qui ne voient pas qu'aujourd'hui ils ne font plus de l'insertion, ils ne font plus de social, ils ne font plus de suivi, et qui ne se rendent pas compte qu'on leur demande simplement de remplir des colonnes de chiffres. Honnêtement, à mon avis, ceux-là, ils sont très dangereux. Il faut se méfier d'eux quand on est demandeur d'emploi. Moi, je conseillais à mes demandeurs de changer de conseiller quand ça collait pas, parce que finalement, c'est le conseiller a beaucoup de pouvoir, il peut faire plein de choses. Et c'est vrai que mes collègues, je l'ai senti, mais dans une très grande détresse. Hein. Je parle beaucoup d'une collègue qui s'appelle Cécilia dans le livre, et qui est quelqu'un de vraiment exceptionnel et qui apporte une vraie aide, qui est vraiment géniale. Mais elle est partie. Elle a fini par partir. Et finalement, c'est ce qui va arriver à Pôle emploi. C'est tous les gens compétents, tous les gens motivés qui ont
du cœur, tout ça.
Qui ont du cœur, oui, tout à fait, merci, vont partir parce qu'ils peuvent plus exercer dans ces conditions.
Et est-ce que vous avez eu des réactions? Alors, quelles ont été les réactions justement des gens d'abord que vous citez, même avec un pseudo en fait?
Oui.
Et puis d'autres gens évidemment qui n'étaient pas concernés par le livre mais qui se sont peut-être trouvés visiblement.
Alors, moi je dirais que c'est. J'ai deux types de réactions complètement différentes. J'ai des gens qui sont très vexés, qui se sont sentis. Soit directement attaqué quand il s'agit de collègues dont je dénonce le comportement, notamment le personnage de Tentation de la vocation, qui est assez impressionnant, qui n'a pas du tout apprécié le livre, cela va sans dire. Donc voilà, même des gens qui n'ont pas travaillé avec moi et que je connais pas et qui se sentent attaqués à travers mon attaque de Pôle emploi, j'ai eu des mails assez violents, des choses assez difficiles, notamment avant la sortie du livre. Et puis j'ai tout l'inverse, des gens qui sont vraiment ravis de ce livre, qui le trouvent formidable, qui le font lire à leur famille parce que ça leur permet de faire comprendre leur propre situation de travail. Donc voilà, donc j'ai aussi des mails de remerciements très chaleureux. Donc c'est vrai que ça fait du bien.
Très bien. Alors moi, merci Marion. Alors je voulais juste te demander, tu me dis à un moment donné que les méthodes règles, objectifs, contrôle sont factices. Je te lis, hein, c'est toi qui le dis. N'ont pas de sens, sont irréalistes, inatteignables, inapplicables, illogiques. C'est la règle de la magouille, tout le monde triche.
Oui.
En quoi tout le monde triche à Pôle emploi?
Alors, parce qu'en fait, on nous donne des objectifs qu'on ne peut pas tenir. Donc en fait, par exemple, le suivi mensuel, c'est tout bête. Le suivi mensuel, donc Pôle emploi s'engage à recevoir les demandeurs tous les mois. Un bref calcul mathématique vous permettra de comprendre que c'est pas possible avec le nombre de conseillers qui travaillent aujourd'hui chez Pôle emploi. Enfin, quand un collègue a 240 demandeurs dans son portefeuille, il peut pas les recevoir une fois par mois. Enfin, ou alors il faut qu'ils viennent la nuit et le week-end. Donc mathématiquement, c'est pas possible. Donc clairement, à partir de là, tout le monde magouille. C'est-à-dire qu'on fait défaut. On nourrit le logiciel, on fait en sorte que l'édifice tienne, que le château de cartes ne s'effondre pas. Donc aujourd'hui, les chiffres du chômage sont faux et les chiffres de performance de Pôle emploi sur lesquels Christian Charpy s'appuie pour dire que la fusion se passe très bien sont complètement bidonnés. Mais même au niveau des recrutements, moi j'ai des collègues qui font des faux recrutements, c'est-à-dire elles mettent une offre et puis elles ont besoin de la changer parce que la façon dont elles l'ont rédigée ne correspond pas à l'employeur. Et au lieu de la supprimer et de la remplacer, elles vont dire au logiciel quelqu'un a été recruté sur ce poste-là. Donc en fait, il y a un poste créé et un demandeur recruté pour rien. Et en fait, il y a rien derrière. C'est juste une abstraction informatique.
Et ça, vous l'avez vu.
Ça je l'ai vu. Oui.
Je vous propose d'écouter une petite chanson en reprenant la parole.
À ne plus rien comprendre, figé, à ne plus rien attendre, fatigué, fatigué d'espérer d'être écorché. À ne plus rien comprendre, à ne plus rien attendre, fatigué, à ne plus rien comprendre.
Merci à tous et à toutes. Vous êtes toujours sur fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et précaires, avec évidemment toute l'équipe un peu réduite, avec bien sûr Ludo et Thierry. Et ce soir, nous avons donc Marion Bergeron qui a écrit qui a fait un témoignage sur Pôle emploi à coupe au couteau, donc assez intéressant, je tiens à le dire.
Et c'est pas un pseudo.
Et donc, bon. Achetez-le, essayez de vous renseigner.
On n'a dit pas de publicité.
Pas de publicité. Je ne sais pas de nom, voilà. C'est des Carrefour.
Je vais vous le offrir.
Donc, c'est chez Plomb, bien sûr. Et donc, j'aimerais revenir sur ce livre en parlant un petit peu de la façon dont les gens sont radiés, parce qu'on n'a pas parlé de radiation réelle. Donc, cette plateforme, enfin, ce planning qui n'est pas à jour ou qui est à jour, mais si les rendez-vous ne sont pas tenus. Comment ça se passe?
Donc, en fait. La plus classique, c'est la radiation pour absence à un entretien. Donc en fait, ça se passe de la façon suivante. Le logiciel vous a convoqué tel jour, telle date. Ce jour-là, votre conseiller doit absolument rentrer un entretien dans le logiciel. S'il ne le fait pas, un courrier part automatiquement du centre de traitement des courriers. Vous recevez ce courrier chez vous, c'est un avertissement avant radiation. Si vous ne vous présentez pas, la radiation part, vous êtes radié, c'est fini. Voilà. Moi, je sais qu'il y a des agences où on pousse les agents à radier. Clairement, hein, où il y a des objectifs. J'ai des collègues qui m'en ont parlé. Dans mon agence, ce n'était pas le cas, heureusement ou malheureusement, parce qu'en fait, on avait un tel taux d'absentéisme qu'on ne pouvait pas radier tous les absents, sinon on se serait fait lyncher.
Donc c'est pour ça, alors.
Oui,
c'est...
en fait, on avait 50% d'absentéisme à nos entretiens.
Aux entretiens.
Oui.
C'est énorme, malheureusement. Tu veux dire, ça justifierait les sanctions. Ou alors, est-ce que c'est la mise en place? Il y a trop d'entretiens.
Mais il faut arrêter de se moquer des gens. Enfin, on leur demande de venir à quoi? C'est quoi ces entretiens? Enfin.
C'est le contrôle mensuel personnalisé.
Voilà.
Qu'il était bien.
C'est humiliant, c'est blessant, ça vous apporte rien. Moi, honnêtement, je comprends que les gens ne viennent pas. Maintenant, dans mon agence, on pouvait pas radier 50% des demandeurs d'emploi, donc c'est vrai qu'on était plutôt dans une logique de rattrapage. Maintenant, il y a d'autres choses qui se mettent en place. Il y a d'autres systèmes qui sont plus insidieux. Quand vous surchargez les conseillers, quand vous surchargez les portefeuilles des conseillers de demandeurs, forcément les conseillers, ils sont pas enclins à garder les demandeurs dans leur portefeuille. Donc, une jeune femme enceinte, quelqu'un d'âgé, quelqu'un qui a pas d'acidique, toutes ces personnes-là vont être doucement poussées vers la sortie par les conseillers. Mais c'est pas mal, c'est pas mauvais, c'est pas mal pensé, mais. C'est le résultat du sous-effectif, en tout cas. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas bien, parce que ces gens-là, il ne faut pas les perdre. Il faut les garder dans le système et continuer à les voir, parce que parfois, ça peut vraiment être important, ce suivi mensuel, même si aujourd'hui, il est d'une qualité déplorable.
En tout cas, tout le monde y a droit. C'est un bon système, hein, que le suivi mensuel pourrait être un bon système.
Je pense
fait un peu contrôle administratif.
Moi, je pense qu'il est très mal adapté, parce qu'il est... pareil pour tout le monde, il y a plein de demandeurs qui sont très autonomes, ils ont Bac+5, ils n'ont absolument pas besoin des services de Pôle emploi, ils se débrouillent très bien pour trouver un travail. Par contre, il y a toute une frange de la population qui a besoin de nous, clairement, pour faire un CV, c'est des choses qu'on n'apprend même pas à l'école, enfin, c'est pas évident la première fois. Les jeunes diplômés, des gens qui sont dans des situations précaires ont besoin de ça.
Ou des gens qui cherchent une formation aussi.
Tout à fait, voilà, toute la problématique des formations, où on a besoin du conseiller pour sortir un peu la tête de l'eau, et avoir du temps vraiment pour ces gens-là, et pour faire un vrai suivi, pas cette espèce de faux.
D'accord.
Alors sur les radiations, quand il y a quelqu'un qui est radié abusivement et que vous voyez revenir avec une association de chômeurs pour le faire rétablir, comment les agents ils réagissent
Honnêtement, j'ai jamais été confronté à la situation, donc je peux pas.
Et oui, c'est que les associations de chômeurs ne sont plus ce qu'elles étaient, et elles n'accompagnent plus les demandeurs d'emploi.
Toujours.
Moins qu'à une époque. Époque, il y avait un droit de. Mais ça se passait pas comme ça, parce que la radiation n'était pas automatique. Donc c'était. Il y a eu tout un débat là-dessus, où normalement on devait demander l'autorisation au-dessus avant la radiation. Aujourd'hui, visiblement.
C'est plus le cas. Le courrier part tout seul.
Alors, moi, j'ai une question à poser encore sur cet ouvrage, de ton expérience, c'est au niveau des annonces des employeurs. C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand on va à Pôle emploi, enfin à l'ancienne ANPE, que les annonces ne sont pas renouvelées, ou qu'il y a des annonces qui sont là depuis 7 mois, ou alors que les demandes sont trop excessives par rapport au salaire demandé, ou.
Ah, alors. Clairement, les patrons, les entreprises ont tendance à rêver leurs annonces. D'accord. D'ailleurs, il faut vraiment pas avoir peur des annonces. Autant les demandeurs mentent sur leur CV, et ils ont bien raison, autant les entreprises mentent sur leurs annonces aussi.
Elles surdimensionnent le poste.
Bien sûr, elles surdimensionnent le poste. On vous demande de l'anglais, mais en fait, on vous demande de savoir dire hello. Voilà. Enfin, c'est très souvent comme ça. Donc, il faut pas chercher à coller aux annonces. Il faut répondre à tout ce qui passe. À mon avis, honnêtement, c'est vraiment la bonne stratégie, parce que derrière, les entreprises y croient pas plus que vous, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a des postes qui existent pas, et notamment tout ce qui est appel à main d'œuvre étrangère. Parce qu'en fait, quand une entreprise, par exemple, un restaurant libanais veut recruter le cousin qui est au Liban et pour faire la cuisine, le poste est déjà pris, mais ils sont obligés de publier une annonce. Donc c'est un poste qui sera pas pourvu. Voilà. Donc, c'est vrai que il y a des choses bizarres.
Il y a une obligation pour. Il n'y a pas forcément d'obligation pour les employeurs de publier une annonce à
Pôle
emploi.
C'est fini. Mais avant, oui.
D'accord.
Vous voulez dire sur n'importe quel poste ?
Oui.
Non, il n'y a aucune obligation de passer par Pôle emploi pour recruter quelqu'un en France.
Parce qu'un des soucis quand même des demandeurs d'emploi, c'est que finalement ils sont confrontés à l'anonymat des offres, souvent des offres d'annonce en fait, c'est-à-dire qu'effectivement ils répondent à l'ANPE et l'ANPE ne leur répond pas,
ne leur communique pas
le résultat, et ça met des jeunes notamment dans des situations noires, parce qu'ils ont vraiment l'impression d'être en dessous.
Oui, c'est très humiliant. Mais en fait, les entreprises ne contactent pas Pôle emploi.
Ouais. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'elles.
Nous, on a très très peu de retours. On n'arrive pas à savoir s'ils ont recruté quelqu'un, qui ils ont recruté, si c'est passé par nos services ou par un autre moyen. Les entreprises s'encombrent pas beaucoup avec des renseignements pour Pôle emploi.
Ouais. Et moi, j'ai qu'une chose à dire aux chômeurs, c'est quand vous trouvez des annonces et que vous allez voir le poste. Et quand on vous dit, non, c'est déjà fait. Et il faut demander au patron comment ça a été fait. Et de là, attaquer Pôle emploi pour annonce abusive affichée à Pôle emploi.
Oui,
attaquons Pôle emploi.
Et ça, c'est
des renseignements.
S'il y avait des gens qui attaquaient pour des annonces bidons à Pôle emploi, je crois que c'est peut-être le ministre.
Merci Thierry. On est d'accord avec toi. Alors, une dernière question avant de rendre l'antenne, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. J'ai l'impression qu'à Pôle emploi, c'est aussi la réunionite aiguë. Parce que tu en parles dans ton bouquin.
Tous les vendredis. Mais c'est très bien, les échanges de pratiques. C'est une super idée. Non, mais c'est vrai, il faut parler de ce qu'on fait. Et puis, les mesures changent tout le temps, c'est important. Sauf qu'en fait, on fait pas du tout ça. En fait, c'est de l'information descendante. En fait, le vendredi après-midi, dans votre agence Pôle emploi, les conseillers se réunissent dans une petite pièce sombre et on leur donne les nouvelles instructions. Donc, par exemple, le taux de CAE à faire, comment on a modifié le formulaire A440 pour les formations. Enfin, voilà, des choses comme ça. Et ça remonte jamais, par contre. Donc, les conseillers ne disent pas ce qui se passe dans leur réalité et au niveau du terrain. C'est toujours de l'information qui leur tombe sur les épaules. Voilà.
Ben écoute, merci Marion d'être venue.
Mais c'est
voir.
Moi, merci beaucoup. Voilà, je suis ravie. Voilà.
Donc, c'était.
On n'a pas parlé assez des dépressions.
Mais elle reviendra si elle le désire, pas de souci. Donc, c'était Marion Bergeron pour son témoignage au vitriol de 183 jours dans la barbarie ordinaire à Pôle emploi. Voilà, donc chez Plomb. Tu reviens quand tu veux, avec plaisir.
C'est adorable, merci beaucoup.
Donc cette émission se termine, c'était Gilles au micro avec Ludo et Thierry.
Bonsoir.
Bonsoir. Gros bisous aux filles et gros soignez-moi aux garçons. Ciao.
Et tout de suite CSM.
Voilà.
Au revoir.